soit nous c'est nous qui camachez, soit nous c'est face pour enfants nous.
Bien, voilà l'heure est arrivée de notre invité, M. Christophe Touchard, qui va s'entretenir avec Nicole Aubert de son livre. Bienvenue, M. Christophe Touchard.
Merci, Georges. Bonjour, Nicole.
Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, Georges. Bonjour, Christophe. Et bonjour, Rodrigo. Eh bien, nous sommes aujourd'hui très heureux de retrouver Christophe pour la parution de son premier ouvrage, son premier récit, Un alto pour passeport, une année autour du monde aux éditions Favre, qui est sorti tout récemment, puisque c'était le jeudi 16 mars. Je rappelle que Christophe n'est pas seulement musicien, altiste précisément, il est également ingénieur et écrivain voyageur, comme il se prénomme. Alors un petit rappel sur vous, Christophe. Eh bien, votre tour du monde va commencer en 2018, jusqu'en 2019, un an. Un tour du monde musical. Vous partez avec votre instrument, votre alto, pour l'enseigner. Vous organisez votre voyage en partenariat avec l'association El Sistema France. Alors, vous nous parlerez, vous nous rappellerez un petit peu ce que c'est que cette association. En tout cas, le programme international permet aux enfants défavorisés d'avoir un accès gratuit à la musique classique. Votre objectif est de partager votre passion du violon avec des jeunes partout autour du globe. Bien, nous avons écouté donc Prélude pour deux altos de cet album Viola Around the World qui a été enregistré avec des amis musiciens, donc de Christophe, et qui a servi à soutenir son projet autour du monde. Son voyage, plus de 15 000 km en train, visite de cette association El Sistema. Et Christophe, vous avez eu l'occasion de visiter quelques-uns des plus somptueux glaciers, déserts ou forêts primaires de notre planète. Et de ce voyage sont alors nées des conférences pour entreprises, un spectacle jeune public, ainsi que votre livre « Un alto pour passeport, une année autour du monde ». Alors maintenant, forcément, je vais vous poser quelques questions. Tout simplement, comment est né ce livre ?
Alors ce livre est né à la suite donc, du tour du monde assez logiquement, donc au fur et à mesure, j'avais pas forcément en tête avant de partir d'écrire un livre, et au fur et à mesure du voyage, je me suis enrichi d'énormément d'aspects, alors à la fois bien sûr des aspects culturels parce que je partais avec mon alto, mais également des aspects géopolitiques ou environnementaux, vous en avez parlé entre autres avec les glaciers, les déserts, et à force d'échanger avec les personnes que je côtoyais, elles me disaient mais le regard que tu es en train de nourrir sur le monde est intéressant et tu devrais peut-être le partager. Et donc à mon retour, j'avais commencé à avoir cette prise de conscience de me dire je devrais peut-être écrire quelque chose.
Donc c'est venu... Et vous aviez fait des vidéos.
Et j'avais fait alors oui,
des
tout
vidéos,
à fait. J'avais,
un petit film.
J'avais commencé comme ça, oui, tout à fait, avec des vidéos des associations El Sistema, alors qui sont d'ailleurs toujours disponibles sur mon site internet. Et donc c'était.
Et votre site internet, du coup, vous dites comment alors, ça s'appelle
sur, oui, donc sur viola-around.com. Donc vous pouvez aller faire un tour. Donc sur lequel vous trouvez effectivement ces vidéos de présentation des associations El Sistema. Et donc ça a été le point de départ. Et puis finalement, bah, ce livre est un peu venu en point d'orgue. Pour prendre une métaphore musicale, voilà.
Avec le spectacle jeune public.
Et qui a aussi commencé, tout à fait, donc un spectacle jeune public, vous l'avez introduit, qui est un spectacle pour les 6-12 ans, qui a été monté avec donc une metteuse en scène et puis une pianiste. Et donc on emmène les enfants voyager pendant 45 minutes autour du monde en musique.
Et puis pour aboutir finalement après votre livre.
Tout à fait.
Alors, c'est votre premier livre ou est-ce que vous avez déjà écrit dans votre jeunesse ou...
Non, non, c'est mon, effectivement, c'est mon premier livre.
C'est votre premier livre. Eh bien, longue vie à votre premier livre.
Merci.
Et le choix, alors le choix du titre, Un alto, oui.
Alors, oui, effectivement, un alto pour passeport. Alors, un alto, c'est assez évident. Donc, ça a été mon compagnon de route pendant un an. Et pourquoi pour passeport ? Parce qu'il m'a permis de vraiment de m'ouvrir énormément de portes. Donc, ça a été finalement ce passeport qui m'a ouvert les portes de beaucoup.
Les frontières.
Alors, à la fois les frontières et puis les frontières même individuelles. Donc, j'ai pu aller à la rencontre d'énormément de personnes grâce à cet alto. Mmh. Et donc, ça a été un peu cette clé magique, d'où ce titre, Un alto pour passeport.
Et quand avez-vous commencé son écriture ?
Alors, quasiment au retour. Donc, je suis rentré en mai 2019. Il y a eu quelques mois le temps de me remettre un peu, alors quelqu'un un peu compliqué d'ailleurs, le temps de me remettre dans le bain. Et puis après, donc, j'avais cette idée en tête d'écrire. Et donc, petit à petit, je me suis dit, il faut que j'écrive, il faut que je m'y mette. Et puis, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont incité à y aller. Donc, je me suis lancé fin 2019 dans l'écriture.
Mais pour retranscrire donc toute cette histoire, tout ce voyage, vous avez pris des notes.
Oui.
Je suppose, au fur et à mesure, dans chaque pays et vous avez reconstitué à partir
Oui, oui, tout à fait, effectivement. Alors, ça a été une amorce très précieuse. Donc, j'avais, je pense, plus d'une centaine de pages de notes que j'avais prises pendant le voyage et qui ont été un point de départ extrêmement précieux pour écrire le livre. Maintenant que j'y repense aussi dans le processus d'écriture, alors à la fois, ces notes ont été très précieuses. Mais au moment où je me remettais dans mes notes, je me suis aperçu que la mémoire aussi avait une capacité extraordinaire. Et donc j'ai se remémorer, oui, tout à fait. Et je crois que j'ai été capable chaque jour de remettre, pas précisément, mais
presque les
détails de mes journées pendant un peu plus de
370
jours.
Oui, parce que les émotions, tout ce que vous avez vécu, donc vous les avez gardées en vous.
Tout à fait. Ouais,
donc
ouais.
Ça réapparaît au moment de
l'écriture.
De l'écriture. Complètement. Alors, il y a quand même c'est normal, il y a une construction dans votre livre. Comment vous êtes parti, comment vous avez aménagé donc vos chapitres et le lien. Le lien, c'est les pays, c'est ça, les pays que
oui,
vous...
oui, effectivement. Donc, j'ai un lien qui est avant tout chronologique. Donc, on va parcourir pendant ce livre mon voyage. Donc, mon voyage qui a été... au tout départ, un périple en train donc, qui m'a amené de Paris jusqu'au Tibet. Puis ensuite, avec un tour en Asie du Sud-Est, en Océanie et enfin en Amérique du Sud, et donc principalement au Chili et en Argentine. Et donc, vous avez ce suivi chronologique qui va être entrecoupé par des petites bribes de vie personnelle. Donc, on remonte sur 5 ans de vie et donc on comprend au fur et à mesure de la lecture du livre pourquoi je suis parti, parce que je suis parti pour aussi des raisons personnelles. Donc, c'était un moment où j'avais besoin de me réinventer, de retrouver ma voie. Et donc, ça a été cette occasion, ce voyage aussi de me réinventer. Et donc, on revient un peu en arrière. Et puis sur la fin aussi, on découvre ce que j'ai fait. Et entre autres, le spectacle fait partie des projets que j'ai menés depuis que je suis rentré.
Oui, c'est ça. Vous avez en fait 3 chapitres.
Oui, alors 3 grandes parties.
Trois
grandes parties. Donc, il y a une première partie qui est sur l'Europe.
Oui, vous l'avez intitulé comme ça. Oui.
Exactement, donc qui est de ma traversée jusqu'en Asie, donc depuis l'Europe. Là, on est plutôt sur une partie, alors à fois historiquement, plutôt dans le passé. Puis on est aussi, j'ai encore beaucoup de sentiments du passé à ce moment-là en moi. Alors, je suis parti, entre autres, suite à une rupture amoureuse.
Vous mêlez
personnelle.
Deux histoires, en fait. Vous mêlez votre histoire, votre récit de voyage et votre histoire
exactement.
Personnelle.
Voilà, tout à fait.
Votre histoire personnelle étant le déclic. De
qui m'incite à partir, tout à fait. Oui. Et puis ensuite, en fait, je grandis aussi avec le voyage, et donc c'est ce que j'illustre au travers du livre. Et en particulier, alors il y a quelques moments charnières, hein, en Polynésie, entre autres, ça a été un des moments où j'ai appris à reprendre une vie presque carpe diem, donc d'où commencer à vraiment oublier le passé. Et puis ensuite, quand je suis en Amérique du Sud, là, je me projette vraiment vers le futur. Donc on a aussi, dans la logique d'écriture, ces 3 grandes parties vont suivre le passé, le présent et le futur.
Le passé, le présent et le futur. Et alors, quels sont les sujets abordés ?
Alors, beaucoup de sujets.
Pour chaque pays, c'est à peu près, vous avez une ligne de conduite.
Oui. J'ai dû faire un choix. J'avais beaucoup de choses à raconter, donc forcément, on ne peut pas tout raconter. Donc, j'ai fait un choix sur trois axes. Donc, il y a trois clés de lecture principales sur le livre. Donc, il y a bien sûr un aspect culturel et avant tout musical. Donc, ça, c'est à la fois par les rencontres des associations
Parce que c'est par l'association Systema. Et d'ailleurs, vous n'avez pas dit... vous pouvez dire juste un petit mot de José Antonio Abreu.
Oui,
c'est
alors
lui
complètement.
Qui est à l'origine.
Exactement.
Il est vénézuélien.
Il est vénézuélien. Donc, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas les associations, peut-être on peut faire une petite parenthèse rapidement. Donc, ces associations sont nées dans les années 70 au Venezuela. Donc, à une époque où le Venezuela avait des inégalités, mais avait quand même des fonds assez conséquents, parce qu'il y a beaucoup d'exploitations pétrolières. Et donc, effectivement, José Antonio Abreu a décidé de créer un moment de partage musical au sein des écoles en introduisant l'orchestre dans les écoles primaires, et donc pour faire en sorte que les enfants, particulièrement des quartiers défavorisés, apprennent la musique classique, avec l'image que l'orchestre, finalement, c'est l'image d'une société, et que d'intégrer l'orchestre jeune, c'est intégrer une société et donc apprendre les codes de la société. Et donc ça va être extrêmement bien fonctionné, et tellement bien fonctionné que ça fait des émules dans le monde. Et donc il y a un peu plus de trois... Oui, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a des associations partout dans le monde.
Comme j'ai dit, voilà.
Et voilà. Et donc en France, c'est une des associations qui existe, effectivement, El Sistema France. Mais vous en avez d'autres, comme Passeurs d'Art ou Demos, qui vont être des organismes aussi qui aident les enfants au travers de la musique.
D'accord. Alors revenons donc les sujets. Donc c'était important quand même de faire cet aparté par rapport à ce monsieur. Alors les sujets abordés. Donc oui, vous avez donc trois axes. Hein, la culture.
Donc la culture, tout à fait, avec la musique évidemment.
La musique forcément qui est le
point central
aussi. La gastronomie.
Alors la gastronomie un petit peu, mais c'est pas forcément.
C'est convivial la gastronomie. C'est des échanges aussi. Et vous êtes là pour la transmission.
Tout à fait.
Également, donc, par les plaisirs de la...
De la gastronomie. Alors, les plaisirs ou les non-plaisirs.
Oui, parce que...
Il y a aussi des expériences, des anecdotes, en Mongolie en particulier. On n'a pas forcément la plus grande gastronomie au monde. Et donc, on se retrouve à manger matin, midi et soir... Alors il y a la vodka effectivement. Mais sinon en termes de plats, c'est souvent des soupes avec des morceaux de viande et un peu de riz, et donc on mange ça matin, midi et soir. Donc il y a une certaine lassitude, mais dans d'autres pays effectivement.
Oui, j'ai lu que les Mongols ils mangent des os et des cartilages.
Effectivement, alors ça c'est...
Ah bah c'est une découverte en même temps.
Ce sont des découvertes extrêmement intéressantes qui font beaucoup rire. Parce que quand un Mongol va manger de la viande sur un os, effectivement il ne reste absolument rien. Et donc tout ce qui est cartilage va être mangé. Et donc c'est des expériences parfois assez rigolotes.
Et vous étiez obligé, vous ?
Alors j'ai tenté, parce que j'étais observé,
alors.
Tout à fait.
Leur loisir, c'est quoi là-bas ?
Et alors, dans leur loisir, il y a justement la musique. Donc, ils jouent. Alors, il y a un instrument mongol traditionnel qui s'appelle le morinrur, qui est une sorte de violoncelle, mais à deux cordes, qui se joue en posant l'instrument sur la cuisse. Et donc, c'est avec des cordes en crin de cheval. Et donc, ça a un son assez particulier. Donc, c'est vraiment l'instrument emblématique de la Mongolie. Et puis après, ce sont quand même des personnes alors, de moins en moins nomades, mais beaucoup sont nomades. Et donc, ils vont avoir une relation avec le chameau ou le cheval assez présente. Et donc, après, il y a des jeux, donc entre autres les grands jeux mongols avec des courses à cheval, des grands événements plutôt sportifs.
Et vous abordez également la géopolitique.
Alors oui, donc ça c'est effectivement, donc après la culture, c'est un deuxième aspect très important dont j'ai eu particulièrement besoin pour lire les pays dans lesquels j'étais et que j'ai trouvé intéressant d'amener aussi dans le livre, donc c'est comprendre les aspects géopolitiques des pays traversés et des relations inter-pays qui aujourd'hui sont très mouvantes et qui amènent à certaines conséquences. Et donc je trouvais ça important aussi de remettre un peu de géopolitique avec un regard que j'ai essayé de rendre le plus neutre possible, même si c'est toujours difficile, mais de prendre du recul et de donner vraiment un avis sur les pays le plus neutre possible. Donc ça a été la seconde lecture. Et puis, les derniers aspects que j'ai emmenés, ce sont les aspects environnementaux. Et donc ça a été vraiment, ce voyage a été la prise de conscience personnelle des enjeux climatiques que nous traversons tous. Et donc j'ai souhaité aussi au travers de ce livre en faire
une prise de conscience.
Exactement.
Une prise de conscience. Parce que vous parlez notamment justement des conséquences dramatiques du changement climatique concernant les milieux fragiles comme le désert de Gobi.
Oui, tout à fait.
La Patagonie. Ouais. Qui vous a fait définitivement changer, vous dites.
Oui, complètement. C'est en Mongolie, je pense que ça a été le premier moment de prise de conscience. En échangeant avec des éleveurs nomades qui expliquent qu'il n'a pas plu depuis un an. Il se retrouve avec des difficultés. Alors déjà, ce sont des pays où il est très difficile de faire de l'élevage parce qu'il y a peu d'herbe naturellement. Les conditions sont quand même assez...
C'est difficile.
Pardon ?
Oui, s'il n'y a pas de pluie, c'est
très dur. Et s'il n'y a pas de pluie, effectivement, donc ça augmente d'autant plus les difficultés. Quand on passe dans les endroits en altitude au Tibet, on voit que les glaciers ont énormément fondu. En Australie, vous avez la barrière de corail aussi qui est victime de blanchiment. Et donc ça veut dire que les coraux sont très, très mal en point. Une grosse partie aussi sont déjà morts. En Patagonie, je crois que ça a été vraiment le moment charnière où je me suis dit on a trop d'impact aujourd'hui de l'humain sur son environnement et donc il faut absolument qu'on change de paradigme et qu'on trouve une autre manière d'approcher le développement de nos sociétés. Et donc c'est aussi ce message que j'ai essayé de passer au travers de ce livre.
Oui, vous avez eu un regard sur le monde qui est en train de changer.
Exactement, ça a été pendant un an un regard mouvant en permanence.
Et alors la place de la musique dans tout ça, parce que vous proposez une écoute musicale.
Oui.
En même temps, donc, de lire le livre. Alors, soit on le fait séparément, soit on le fait en même temps. Et pourquoi ?
Alors, ça a été un choix qui m'a été soufflé, pour être très honnête, par une amie, dont je remercie d'ailleurs l'excellente idée, et qui m'a dit, parce que quand j'ai commencé à parler du livre, elle m'a dit « Ah, tu fais un livre, tu vas parler quoi de musique, tu vas faire écouter des morceaux de musique ?» Et donc, ce n'est pas forcément l'idée que j'avais en tête. Et je me suis dit, mais ça peut être intéressant de faire écouter aussi des instants musicaux au moment de la lecture du livre. Et donc, c'est ce que je propose principalement au début des grandes parties. Des grands épisodes, voilà. Et puis, dès qu'on a un changement de pays, de proposer une œuvre musicale qui va plonger le lecteur dans une ambiance sonore, qui est une ambiance sonore du pays.
C'est une ambiance sonore du pays à chaque fois.
À chaque fois,
donc,
exactement.
Il y a une correspondance avec le pays.
Donc, il y a une correspondance avec le pays, tout à fait, oui.
Et puis de l'interprète, je suppose, du compositeur, je veux dire.
Non oui, donc un choix. Et puis en fonction aussi des grands messages que je voulais faire passer, je pense à la Nouvelle-Zélande, j'ai choisi un morceau, alors on est plutôt dans du rock'n'roll, mais rock'n'roll néo-zélandais avec un morceau qui s'appelle Nature. Voilà, donc il y a eu un choix aussi des morceaux en fonction de ce que je veux et de ce que je raconte dans le livre.
Alors pour vous, musique et écriture sont indissociables.
Pour moi, musique et nature et écriture sont indissociables. Je pense que j'irais même plus loin. En fait, c'est tout l'art qui est indissociable. On peut dire que effectivement, musique et écriture, mais peinture, architecture et gastronomie, on en parlait aussi.
Là, c'est pas pareil. Là, je me posais en temps. Moi, je l'ai lu. Sans écoute musicale. Donc maintenant, je vais devoir donc le relire. Et est-ce que ça n'influence pas ? Enfin, je sais pas. C'est moi qui vous dirai, qui vous donnerai la réponse. Ça peut aussi.
Je pense que ça.
Voilà. C'est comme un livre audio. C'est pas sa lecture personnelle. C'est un acteur ou un comédien qui va lire. Et là, la musique va pas être en arrière-fond, on va pas dire c'est pas un fond musical, on va être dedans. Alors peut-être il faut joindre les deux.
Oui, en tout cas c'est ce que j'invite à faire en lisant le livre, c'est prendre le temps.
C'est peut-être pas évident, Mais c'est à donc, les chers auditeurs, hein, je vous encourage donc à lire et écouter ce livre avec attention. Alors, quel message voulez-vous transmettre avec ce livre ?
Alors, ce que je veux transmettre, et je trouve que vous avez choisi un très beau mot, parce que c'est...
La transmission. Votre livre, c'est ça. Hein, c'est de la transmission. Rencontrer des gens, c'est créer du lien, avoir du lien et transmettre.
Et complètement. Et donc, c'est mon objectif aujourd'hui. J'ai réalisé pendant ce voyage énormément d'aspects. J'ai grandi à la fois personnellement, mais j'ai aussi changé mon regard sur le monde. Et donc, c'est ce que j'ai voulu transmettre. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce livre, c'est de transmettre tout ce que j'ai vu pour permettre au lecteur de saisir des éléments dont il a envie, besoin. Et donc, pour l'aider à se construire lui-même sa vision du monde au travers de ce que j'ai pu rédiger.
Oui, un exemple.
Donc, voilà, c'est un voyage finalement par la lecture.
Une meilleure relation avec les étrangers. En quelque sorte.
Exactement, ouais, tout à fait.
Ah
avec
oui.
l'autre et.
Avec l'autre.
Et donc cet objectif, oui, de contact. Tout à fait.
Alors vous avez eu un bel hommage de Renaud Capuçon. Renaud Capuçon, donc. Pardon ?
Qu'on ne présente plus.
Qu'on ne présente plus, non. dit de vous, il en fallait de l'audace et du courage pour effectuer ce tour du monde avec son instrument pour rencontrer des jeunes défavorisés. Une belle utopie réalisée par l'auteur de ce livre attachant et original. La preuve qu'une fois de plus, la musique ouvre des horizons sans limite et qu'elle tisse des liens sans pareil entre les hommes. Alors pour terminer et pour vous donner envie, et n'hésitez pas, ce livre donc est disponible donc en librairie. Eh bien, donc le premier chapitre de l'épisode 1, avec donc un morceau donc de musique de Franz Liszt, Romance oubliée. Et je poursuivrai avec la lecture. Paris, Gare de l'Est, un mois et demi plus tôt. La salle d'échange est vide. En ce début d'après-midi, seuls quelques voyageurs se dirigent d'un pas pressé vers les quais. Mon sac sur le dos, mon alto dans ma main droite, je les suis sans réfléchir, telle une machine. Comme la plupart d'entre eux, je ne suis qu'un passager qui prend la direction de l'Allemagne pour rendre visite à des amis ou pour un rendez-vous professionnel. Pourtant, en ce 1er mai, je m'apprête à parcourir plus de 15 000 km en train pour rejoindre la capitale du Tibet. Je vais traverser l'Europe, la Russie, la Mongolie et la Chine sur le plus long chemin de fer du monde. Mon arrivée à Lhasa est prévue dans quelques mois. Tout cela me semble n'être qu'un rêve, qu'une illusion. Je m'attends à sortir d'un profond sommeil d'un instant à l'autre. Je sursaute. Le chef de gare vient de faire retentir son coup de sifflet. Mais je ne me réveille pas. Je suis toujours dans ce wagon. Serais-je donc bien en train de réaliser ce voyage insensé ? Serait-ce le signal de départ de ce tour du monde ? La machine se met en marche. Je suis emporté vers Francfort. Donc voilà, Christophe Touchard, un alto pour passeport, une année autour du monde. Merci beaucoup, Christophe.
Vive la musique.
Merci, Nicole. Et puis merci, Georges aussi.
Martinique, levé debout, trouvé chimère. Oui, 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 oui. Martinique, montrez-nous chimère.
Martinique, levé debout, trouvé chimère.
Histoire nous, c'est nous qui camachez. Histoire nous, c'est face pour enfants nous.
Martinique, levé debout, trouvé chimère.
Histoire nous, c'est nous qui camachez. Histoire nous, c'est face pour enfants nous.
Martinique, levé debout, trouvé chimère.
Pour yush nous d'amène qui calévé. Martinique, montrez-nous chemin.
Martinique, levé, levé debout, couvert chemin.
Oh, Martinique, 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 semblez-vous.